Voilà, alors, vous vous souvenez de quoi? Du fait que Socrate est un personnage important et qu'il y a deux interprétations de Socrate qui ont une influence rétroactive, pour ainsi dire, sur la notion de présocratique, hein, puisqu'on est en train d'examiner la notion de présocratique. Et ce que je vous ai dit, c'est que pour comprendre ce qu'on a en tête quand on parle de présocratique, il faut naturellement avoir une idée de ce que représente Socrate et en quel sens les présocratiques sont des prêts socratiques, plus exactement pourquoi ils sont des prêts socratiques. Et donc j'avais opposé la dernière fois deux orientations, deux perspectives sur Socrate. Socrate, donc, d'une part, plusieurs manières de le dire. On peut dire Socrate, le fondateur de la philosophie éthique, Socrate, celui qui s'intéresse au bien humain, Socrate qui s'intéresse à l'action humaine, Socrate le philosophe pratique. Toute cette détermination philosophe pratique, bien humain, quelle était la première, éthique, n'ont pas tout à fait ces nuances un peu on pourrait raffiner, mais enfin en gros ça se ramène l'essentiel à une même représentation. Et donc, dans ce cas-là, Socrate, c'est celui qui ne fait pas de physique, celui qui, au fond, rompt avec la physique et l'exploration du monde naturel. Ça, c'est un Socrate. L'autre Socrate, c'est le Socrate qui est l'homme du concept, de la définition, de ce qu'on pourrait appeler, je ne sais pas si je l'ai fait la dernière fois, de la réflexion de second ordre. Une réflexion de second ordre étant non pas une réflexion de mauvaise qualité, comme on pourrait penser, mais une réflexion sur les instruments qui nous permettent de connaître. On connaît les choses, et pour connaître les choses, eh bien, il y a des instruments pour connaître les choses, et une réflexion de second ordre, c'est une réflexion qui porte non pas sur les objets directement, mais sur les instruments qui nous permettent de connaître les choses. C'est le théoricien de la définition et de l'essence. Et au fond, on pourrait un peu concevoir, dans ce cas-là, que les objets éthiques, que les questions éthiques qui sont au centre l'image de Socrate que nous connaissons essentiellement à travers les dialogues de Platon et les dialogues socratiques de Platon, ces objets éthiques sont éthiques de manière plus contingente qu'essentielle. C'est-à-dire ce qui intéresse vraiment Socrate dans ce cas-là, c'est naturellement l'action humaine, c'est naturellement la théorie du bien, la théorie de la vertu, etc. Mais au fond, l'instrumentarium qu'il dégage quand il s'intéresse aux questions du concept, de la définition de l'essence, ne sont pas liés de manière essentielle aux objets éthiques. Ce sont des questions qui, bien évidemment, touchent n'importe quel type d'objet, donc virtuellement aussi bien l'étude de la nature que l'étude des vertus. Il n'y a pas de jonction nécessaire, de lien nécessaire entre l'étude du domaine pratique d'un côté et l'étude, de la définition et des concepts de l'autre. C'est simplement joint de manière contingente dans la personne de Socrate. Et c'est ce que dans certains textes, Aristote manifeste clairement, par exemple dans le livre Nu de la métaphysique, il dit à propos de Socrate que Socrate s'est intéressé le premier, ou pratiquement le premier, au problème de la définition, mais que comme tout le monde à son époque s'intéressait aux problèmes éthiques, il a fait des problèmes éthiques le champ privilégié de son enquête, ainsi de manière pas essentielle. Ce qui l'intéressait vraiment, c'était le problème de l'éthique. Bon. Alors, le passage de... C'est pas le livre nu, excusez-moi, c'est le livre nu. Et le livre nu, c'est exactement le chapitre 4. Il y en a un assez long passage que vous pouvez lire. Métaphysique 1004, 1078B17 à 31. Vous verrez, le passage parle aussi de Démocrite. Et pour ceux que ça intéresse, il y a un article assez intéressant de Michel Narcy qui s'appelle « Rendre à Socrate ou à Démocrite ?»« Rendre à Socrate ou à Démocrite ?» Et vous trouverez... dans un volume qu'il a édité son prénom est Gian Antoni, c'est chez Gabriel Gian Antoni, et qui s'est paru dans un volume italien qui s'appelle Lezione Socratique, les leçons socratiques, Naples 1997, mais l'article de Narcy est en français, et vous le trouvez aux pages 81-97. Bon, alors, ce qui est intéressant, c'est, encore une fois, de savoir quelle est la conséquence de ces deux représentations de Socrate sur le philosophe présocratique eux-mêmes. Parce qu'on ne s'intéresse pas à Socrate en tant que tel, mais simplement à Socrate en tant qu'il détermine un horizon à partir duquel les philosophes présocratiques vont, les penseurs présocratiques vont être interprétés. Alors, je voudrais insister sur le fait que les deux déterminations ont des effets extrêmement différents sur cette question. C'est-à-dire qu'ils ont des effets rétroactifs extrêmement différents. Je vais simplement les énoncer et vous esquisser quelques-uns des problèmes et des possibilités aussi qui s'ouvrent à partir de là. Alors, prenons la première détermination, la détermination qui oppose, disons en gros, le ciel à la terre. Selon la phrase de Cicéron, Socrate est celui qui a ramené la philosophie du ciel sur la terre. La version du Socrate humaniste. L'opposition est extrêmement tranchée, du coup, entre, la physique et l'éthique. C'est-à-dire, ce qu'il y a derrière cette division, c'est une distinction tranchée entre la physique et l'éthique, entre la philosophie théorique et la philosophie pratique, entre, encore une fois, des expressions équivalentes, entre la philosophie naturelle et la philosophie de l'action. Et ce qu'on appelle philosophie naturelle correspond à ce que Aristote appelle la physique, si vous voulez, et les gens qui pratiquent la philosophie naturelle, Aristote les appelle des physiciens. Et on parle souvent de physicien présocratique. Quand on parle de physicien présocratique, c'est premièrement une formule qui vient d'Aristote, mais qui a son origine chez Platon, et où précisément on a cette opposition entre philosophie naturelle qui s'intéresse au cosmos d'un côté et philosophie humaine qui s'intéresse aux relations et à l'action humaine de l'autre côté. Si on parle de cette division, qui est une division extrêmement encore fréquente, encore une fois extrêmement fréquente dès l'Antiquité, à partir d'Aristote, ne serait-ce que à cause de l'expression les physiciens, les anciens physiciens, qui confinent, pour ainsi dire, les penseurs présocratiques dans le domaine de l'étude du monde. Donc ça va de pair avec l'idée que Socrate, les sophistes avec lui, mais peu importe, redécouvre une sphère d'intérêt philosophique qui avait été donc négligée par ces physiciens, qui n'avait pas été l'objet de l'enquête. On a une vision très naturellement qui s'impose des philosophes présocratiques comme précisément des physiciens. Donc on a l'idée que les penseurs avant Socrate sont des gens ne faisant pas de Socrate, font dans la nature. Ce sont des naturalistes. C'est une idée extrêmement répandue. Les philosophes présocratiques sont des naturalistes. Vous voyez pourquoi ils sont des naturalistes ? Parce que c'est Socrate qui... Et pourquoi ils sont présocratiques ? C'est parce que c'est Socrate qui met fin à ce type d'enquête en ramenant de la philosophie du ciel sur la terre. Ça, c'est une... alors, la question qu'il faut se poser, c'est dans quelle mesure c'est vrai ? Dans quelle mesure les penseurs présocratiques sont des naturalistes ? Ça, ce sera une question qu'on pourra se poser. Moi, je pense, pour la réponse, que c'est en partie vrai, en partie faux, mais le plus intéressant, c'est là où c'est faux, pas là où c'est vrai. Et on voit, en entrant dans les figures particulières, comment traiter, par exemple, la question de l'éthique présocratique. Parce que vous voyez que l'éthique présocratique, dans cette perspective, c'est un non-sens, puisque les présocratiques, par définition, pour ainsi dire, ne font pas d'éthique. Bon, il est assez facile de montrer qu'il y a une dimension éthique, morale, humaine, tout ce que vous voulez, chez au moins certains des présocratiques. Et la question est de savoir comment ça s'articule avec le projet de la physique, que d'une physique que d'un autre côté, on ne peut pas leur dénier. Ça, c'est du côté de la détermination Socrate. Disons humaniste. Maintenant, du côté de la détermination Socrate logicien ou épistémologue, intéressé à la question des définitions et des concepts. Cette détermination-là suppose, comme Aristote le dit explicitement, que à part Démocrite, cet article auquel je vous renvoie, à part peut-être Démocrite, les philosophes présocratiques ne se sont pas intéressés aux définitions, ou plus exactement n'avaient pas une idée de ce qu'était une définition. Ne pas avoir une idée de ce qu'est une définition va de pair avec le fait de ne pas avoir une idée de ce que c'est qu'un concept. Une forme au sens, disons, ce pratiquant platonicien, ne pas avoir une idée claire de ce que c'est que l'essence d'une chose. L'essence étant l'objet de la définition. Donc, si vous voulez, concept, essence, définition, tout ça, ce sont les grands absents de la pensée présocratique selon cette deuxième détermination de Socrate qui serait le premier à avoir introduit cette préoccupation au sein de la réflexion philosophique. Et donc, d'une certaine manière, c'est dire que la philosophie présocratique, ne connaissant ni définition, ni essence, ni concept, se meut dans, gros, dans un monde hanté conceptuel. C'est-à-dire un monde où le concept n'est pas encore présent comme instrument de la réflexion. Cette deuxième détermination pose, si vous voulez, le statut des énoncés philosophiques présocratiques. Si ça n'est pas du concept, si ça n'est pas de la définition, qu'est-ce que c'est? Et comment le lire? Et d'une certaine manière même, pourquoi en faire des philosophes? S'il est vrai que la philosophie est un exercice qui repose sur le maniement du concept. D'un autre côté, c'est une limitation, si vous voulez, qui porte sur les catégories utilisées par la pensée présocratique, mais d'une certaine manière, cette limitation est d'un tout autre type que l'autre limitation, que la première limitation, qui est une limitation par l'objet, c'est-à-dire qu'il s'agit d'une limitation portant sur les moyens de la connaissance, mais non pas sur l'objet de la connaissance. Naturellement, on peut avoir une pensée un peu conceptuelle, si cette description est exacte, ce que nous aurons l'occasion de tester, si vous voulez, partiellement exacte, mais sans qu'il y ait aucune limitation du côté de l'objet, aucune restriction, par exemple, au domaine de la physique. Autrement dit, cette deuxième détermination de Socrate permet d'avoir l'idée que les penseurs présocratiques ont des types d'intérêts qui sont bien plus divers que ceux que l'on peut attacher à des intérêts de type strictement naturaliste. Alors, il n'est pas inutile d'essayer, dans un premier temps, de donner toute sa force à cette idée que les penseurs platoniciens sont des penseurs, disons, du cosmos, sont des penseurs de la nature, sont des naturalistes. Ça repose, je vous l'ai dit, incontestablement sur une interprétation de Socrate. D'un autre côté, cette interprétation de Socrate comme celui qui introduit un nouveau type de considération repose à son tour certainement sur une perception de ce que ses prédécesseurs ont pu faire. Et d'une certaine manière, quand dans le Phédon, dans le passage que je vous ai déjà cité, à la page 96a, quand dans le Phédon, euh, Platon cherche à caractériser ce dont Socrate s'est détaché. Le type d'intérêt que Socrate a abandonné, ce à quoi il a rompu. Quand il cherche à caractériser ce type d'intérêt, Platon utilise l'expression il fait dire à Socrate, dans ma jeunesse, j'étais fasciné par ce que l'on appelle l'enquête sur la nature. J'étais fasciné par ce que l'on appelle l'enquête sur la nature. Et le fait que Platon emploie l'expression ce que l'on appelle l'enquête sur la nature montre que il s'agit à l'époque de Platon d'une expression premièrement qui existe, attestée, et deuxièmement que c'est une expression relativement nouvelle sur laquelle sur la nouveauté de laquelle Platon attire l'attention à travers l'expression ce que l'on appelle l'enquête sur la nature. Et c'est comme un nouveau mot, c'est comme un nouveau mot à la mode, si vous voulez. Une nouvelle expression, une nouvelle façon de parler qui est encore suffisamment nouvelle pour qu'on la remarque comme telle. Et curieusement, cette expression, on peut en dater l'apparition, elle est à peu près contemporaine de l'apparition du mot de philosophie. Elle date, selon toute vraisemblance, des années 430, toujours, ce dernier tiers du 5e siècle, les années 430 avant Jésus-Christ. Où on voit apparaître des gens qui s'intéressent à une enquête de type naturaliste. Et cette enquête de type naturaliste se caractérise par un certain nombre de traits. Ce sont des récits de l'origine de l'univers narration qui raconte la formation du cosmos depuis ses origines jusqu'au moment présent, et qui, dans la plupart du temps, anticipe la destruction de ce même cosmos dans une phase postérieure du développement. Ces récits se caractérisent par le fait. Alors, voilà, ils se caractérisent, ça c'est très important, par le fait que ils ont une visée totalisante. C'est pour ça que c'est important que ça soit de l'origine du cosmos jusqu'à la destruction du cosmos. Une visée totalisante, c'est très très important parce que une des premières attestations de cette expression L'enquête sur la nature apparaît dans le même texte qui comporte la première occurrence du mot philosophie. Vous vous souvenez lequel c'est ? C'est l'ancienne médecine. Voilà. C'est le chapitre 20 de l'ancienne médecine. Et le chapitre 20 de l'ancienne médecine, que je vous conseille de lire, c'est un traité hippocratique. Et donc c'est un médecin qui parle d'une certaine attitude vis-à-vis des phénomènes naturels dont il cherche à se distinguer. Le médecin dit, en vérité, pour soigner, on n'a pas besoin de faire comme ces naturalistes qui, dit-il, tendent vers la philosophie. C'est là qu'apparaît le premier emploi du substantif philosophie dans toute la littérature grecque, qui tendent vers la philosophie. Il tente la philosophie, pourquoi ? Parce qu'il pense que pour expliquer les causes des maladies et donc pour pouvoir les soigner, il faut remonter jusqu'à la première origine de l'homme et déployer le récit de la naissance de l'homme en l'inscrivant dans le contexte large de l'histoire du cosmos tout entier. Ça, le médecin dit... Le véritable médecin n'en a pas besoin. Et donc, si vous voulez, la première apparition du mot de philosophie, c'est très intéressant, apparaît dans un contexte polémique où la philosophie apparaît comme liée à une volonté de totalisation qui excède de loin les besoins et les ambitions d'un savoir spécialisé mais efficace comme celui d'un médecin. Du médecin. Alors, ce modèle d'enquête très particulier, c'est-à-dire portant sur l'histoire de l'univers dans sa totalité. On peut en suivre le développement de manière relativement sûre. Depuis, disons, le VIe siècle jusqu'à la fin du Ve siècle, le moment où écrit ce médecin que je viens de vous citer. Ça correspond certainement à un genre, alors je ne sais pas s'il faut l'appeler un genre littéraire ou un genre philosophique, ça correspond certainement à un genre de préoccupation dont on peut suivre l'histoire, dont on peut voir qu'il est récurrent, si vous voulez, chez plusieurs auteurs, et dont on peut voir qu'il correspond à un certain type d'intérêt définissable. Alors, on peut le faire remonter au moins jusqu'à Anaximandre. Et en fait, Anaximandre semble être le premier à avoir conçu, c'est-à-dire une histoire du cosmos, et avoir élaboré le système des questions auxquelles ce genre d'enquête doit répondre. Alors, je mets un accent ici Alors, il existe un livre qui est un très bon livre que vous pourriez utiliser pour plusieurs raisons. Un anglais qui s'appelle Charles Kahn, qui s'appelle Anaximander and the Origins of Greek Cosmology. Alors, c'est un titre qui est parlant, c'est-à-dire que il s'agit de cosmologie grecque, il s'agit de cosmologie, et l'origine de cette cosmologie est située chez Anaximandre. Chez Anaximandre, ça veut dire aussi qu'il y a une négation implicite, si vous voulez, chez Anaximandre, ça veut dire que ça n'est pas chez Thalès. De fait, Thalès, sur lequel j'aurai peut-être l'occasion de revenir, est une figure extrêmement, comment dire, évanescente. Qui est entourée de légendes, d'anecdotes, qui sont liées, disons, à son caractère précisément originaire. Alors, Aristote parle de Thalès comme le premier à avoir pratiqué la philosophie naturelle. C'est dans un passage de Métaphysique Alpha 3, on aura, je pense, l'occasion de lire, mais que je ne vais pas lire maintenant avec vous, très clairement, Aristote situe la philosophie naturelle, situe l'origine de la philosophie naturelle chez Thalès. Il y a beaucoup de raisons de penser, et puis je vous le montrerai quand on en saura un tout petit peu plus, que Aristote invente un Thalès, naturaliste en ce sens. Et en tous les cas, il est clair, ce qui est clair, c'est que Thalès, c'est quelqu'un de formidable, c'est quelqu'un qui pratique les mathématiques, c'est quelqu'un qui prédit une éclipse de soleil, c'est quelqu'un qui a des idées sur l'origine des séismes, c'est quelqu'un qui est capable de construire un système de détournement d'un fleuve, c'est quelqu'un qui mesure la hauteur des pyramides à travers la comparaison des ombres portées par ces pyramides sur le sol de l'Égypte à différents moments de la journée. Donc, si vous voulez, c'est un géomètre, ingénieur, mathématicien. Son nom, comme vous savez, est associé à un théorème de Thalès, dont on discute pour savoir historiquement s'il est l'inventeur ou non, mais ça représente bien le type d'intérêt de Thalès. C'est aussi quelqu'un qui a dit que tout est eau, ce pourquoi Aristote le classe comme étant le premier à avoir fait de la philosophie naturelle. J'aurai l'occasion de revenir sur cette formulation, sur cette thèse selon laquelle tout est eau. Mais ce qui est sûr, c'est que Thalès, ou plus exactement, on n'a aucune raison de penser que Thalès a élaboré un système cohérent portant sur la totalité ni du cosmos, ni de l'histoire du cosmos. C'est quelqu'un qui, je veux dire, a des idées géniales, mais diffuses. Si vous voulez, il a quelque chose, pour utiliser ce vocabulaire, du polymath que nous avons déjà rencontré, sous la forme de Solon, simplement que vous pouvez vous intéresser seulement aux pays du monde, aux pays, aux coutumes étrangères, à la diversité des peuples et de leurs organisations politiques et de leurs coutumes, et bien il s'intéresse au phénomène du cosmos. D'une certaine manière, il est l'incarnation de ce que Aristote voit comme le début plus idéal de la philosophie, à savoir l'étonnement. Puisque vous savez, il y a cette fameuse phrase d'Aristote dans le livre Alpha de la métaphysique, au chapitre qui précède l'histoire de la philosophie à proprement parler, dans Alpha 2, Aristote dit l'origine de la philosophie c'est l'étonnement, et qu'est-ce qu'il cite comme exemple de phénomène étonnant capable d'éclencher l'intérêt philosophique, eh bien, c'est précisément le type de phénomène auquel Thalès va consacrer son attention, à savoir les éclipses de la Lune dans cycle 2. En tous les cas, il y a dans les deux l'éclipse de la Lune. L'éclipse. L'éclipse comme phénomène, naturellement, naturel, c'est un phénomène étonnant. Christophe dit, le début de la philosophie, c'est ça. Vous voyez, quand Aristote dit le début de la philosophie, c'est ça, il faut prendre le début de la philosophie au sens idéal, non pas historique représenté par une figure particulière, mais le début idéal de la philosophie, c'est l'étonnement devant des phénomènes naturels représentés éminemment par le type du soleil. Et par le type de la Lune, en l'occurrence. Et Thalès, c'est pas du tout étonnant que le nom de Thalès soit lié à la prédiction d'une éclipse, même d'une éclipse dont on se demande dans quelle mesure, parce que vous savez que les éclipses de lune sont relativement faciles à prédire une fois qu'on a les tables de récurrence du phénomène. Et ces tables avaient été établies par la science babylonienne depuis des millénaires, et Thalès avait certainement connaissance de ces tables de récurrence des éclipses qui lui permettent de prédire l'éclipse précédente. Moi, je ne sais pas faire, mais Thalès savait faire. Vous non plus, vous ne savez pas faire. Thalès savait faire. Il était allé voir les Babyloniens, il s'était renseigné tout ça, il avait fait des calculs, c'était extrêmement compliqué. L'éclipse de la Lune, c'est relativement simple à prédire. L'éclipse du Soleil, c'est quasiment impossible. Sur les bases des connaissances que les Babyloniens avaient accumulées. Et donc, prêter à Thalès la prédiction de l'éclipse du Soleil, c'est vraiment donner un prestige scientifique tout à fait remarquable. En tous les cas, vous voyez, ce que je veux dire, ça c'était des parenthèses, ce que je veux dire, c'est que le nom de Thalès est lié à l'explication de phénomènes remarquables, et c'est quelqu'un qui intervient sur des domaines scientifiques ou des domaines de compétences relativement dispersés, mais chez qui il n'y a aucune, pour lequel il n'y a aucune indication qu'il se soit intéressé, disons, à l'histoire de l'univers au sens englobant et totalisant qui correspond à la description qu'en donne le médecin de notre traité hippocratique quand il parle des naturalistes comme ces gens qui sont intéressés par le développement de l'ensemble du cosmos. Alors, la première personne chez qui on peut le saisir à travers les renseignements que l'on a sur lui, c'est effectivement Anaximandre. Et après Anaximandre, on a toute une série de penseurs qui, en effet, chez qui, en effet, on peut reconnaître, d'une certaine manière, le même type d'intérêt. Je vous les nomme. On aura à en parler. On a le troisième milésien qui s'appelle Anaximène. Et puis, on a, par exemple, Empédocle, certainement. Là, on est à la fin du VIe siècle. Hein. Ça, c'est le VIe siècle. Et puis, alors, on va faire un peu de nom et de chronologie, c'est un peu pour fixer les idées. Au tournant du 6e siècle, chronologiquement, vous trouvez, du 6e, du 5e siècle, vous trouvez Parménide et Héraclite. Et puis un peu plus tard, Empédocle, et un axe à bord. Et puis le CIP. C'est les principaux, il y en a bien d'autres, mais c'est les principaux dont on parlera. Et donc, chez tous ces gens, chez pas mal de ces gens, je vais y revenir plus tard, pas mal de ces penseurs, on peut, disons, détecter le même type d'intérêt pour ce qu'on peut appeler l'histoire naturelle que chez Anaximandre et chez Anaximène, c'est-à-dire qu'on trouve chez eux quelque chose comme le récit de l'histoire du monde. Récit de l'histoire du monde. On le trouve chez Empédocle de manière absolument évidente, on le trouve chez Anaxagore de manière absolument évidente, on le trouve chez Leucippe également de manière absolument évidente. Chez Héraclite et chez Parménide, c'est un peu plus compliqué, parce que Parménide, il a une cosmologie. On est sûr qu'il a une cosmologie. Malheureusement, la cosmologie a très très peu intéressé les anciens, qui ne nous donnent que des renseignements relativement brefs à son propos, simplement parce que les anciens ont retenu de Parménide, c'est la nouveauté de Parménide sur laquelle nous avons à revenir, c'est que précisément il ne parle pas du cosmos avant d'avoir parlé de l'être. C'est-à-dire qu'il subordonne le discours cosmologique à un discours qu'on peut appeler ontologique. Cette subordination du discours cosmologique à un discours ontologique est une grande révolution de la pensée et d'une certaine manière, on peut déjà se demander à propos de Parménide, en dépit du fait qu'il a certainement une cosmologie, si on peut le qualifier de physicien. Et Aristote lui-même sait que le problème se pose, étant donné qu'il assimile précisément, il dit explicitement, tout en sachant qu'il existe une physique de Parménide, au vu de l'ontologie de Parménide, il dit explicitement que Parménide ne saurait être classé avec les physiciens, que les principes de sa philosophie contredisent même la possibilité d'une physique. Donc, Aristote est parfaitement conscient du fait que Parménide n'entre pas dans la... ne tombe pas facilement, ou ne tombe qu'avec réserve, sous la description de la pensée présocratique comme entreprise physique. Et de fait, le nom de Parménide tombe très bien naturellement. Le nom de Parménide n'intervient absolument pas dans l'histoire du Phédon. Le Phédon passe allègrement sur Parménide. Il fait comme si, avant Socrate, n'avait existé que, disons, les physiciens. Parménide représente un cas, donc, déjà un peu difficile. Héraclite encore plus, parce que quand vous lisez les fragments d'Héraclite, vous pouvez penser à beaucoup de choses, les gens ont pensé à beaucoup de choses, et continueront à penser à beaucoup de choses, mais la première chose qui vient à l'esprit n'est certainement pas que Héraclite construit un système du monde. Les fragments d'Héraclite ne se laissent pas interpréter directement comme des fragments de cosmologie ou d'enquête sur le monde. Et en dépit du fait que c'est une tendance de l'interprétation de considérer que Héraclite est un physicien parmi d'autres, cette interprétation, qui remonte d'ailleurs à Aristote, a du mal avec le matériau, qu'offrent les fragments de Parménide, peut-être encore plus de mal, qu'offrent les fragments d'Héraclite, peut-être encore plus de mal qu'avec Parménide. Et donc, vous voyez, même si on parle de... Même si... Alors, ce que je veux dire, c'est que il y a cet intérêt pour l'histoire du monde, mais il y a un premier bémol à mettre, et donc dans cette mesure, la description des philosophes présocratiques comme, disons, des physiciens n'est pas fausse, mais ça serait une erreur de penser que tout se laisse subsumer sous la catégorie physique. C'est une catégorie avec qu'il faut manier avec beaucoup d'avis. Prudence, ne serait-ce qu'au vu d'exemples relativement simples comme ceux qu'offre Parménide, d'exceptions relativement visibles qu'offre Parménide et Héraclite. Oui.
On parle de Thalès, par exemple, on dit les autres ont fait un peu comme Thalès.
Nous, quand on continue avec le reste dans
la même catégorie.
J'ai pas
vraiment
compris le point.
On parle historiquement de la discipline. Par exemple, Aristote dit avant les autres, il y a Thalès, et ensuite on prend tous ceux qui ont continué dans la même ligne que Thalès, d'une façon ou d'une autre, et on dit qu'ils sont encore physiciens.
C'est vrai. C'est-à-dire que c'est vrai que Aristote examine dans Métaphysique Alpha l'ensemble des théories présocratiques, disons, à la lumière de ce qu'il appelle le type de philosophie pratiquée par Thalès, qu'il caractérise comme naturaliste. C'est vrai, ça crée une tradition. Et au fond, ce que je suis en train de vous dire, c'est simplement qu'il y a une homogénéité, n'est-ce pas, de la catégorie de physicien, qui est partiellement justifiée, mais qui se heurte à des exceptions suffisamment visibles pour qu'on se demande si c'est vraiment de ça qu'il s'agit. Et voilà. Alors, moi, ce que... nuance terminologique que je suggère d'introduire, c'est de parler de paradigme cosmologique. Paradigme cosmologique veut dire quoi? C'est autre chose que de dire naturalisme ou physique, simplement. Le paradigme cosmologique, ça signifie, j'emploie le mot de paradigme presque, si vous voulez, au sens de Kuhn. C'est-à-dire un paradigme historien des sciences. Kuhn, qui utilise cette notion de paradigme pour décrire, si vous voulez, l'ensemble des représentations à l'intérieur desquelles, un ensemble fermé de représentations, de présuppositions, à l'intérieur desquelles des discours très opposés entre eux, ou très variés, très opposés entre eux, peuvent se déployer. Et qui parle de changement de paradigme pour décrire le passage d'un de ces horizons englobants à un autre. Mais cet horizon englobant n'est pas un horizon d'homogénéisation. Ce n'est pas un horizon dans lequel tout le monde fait la même chose. Non, tout le monde se réfère à la même chose. Tout le monde se réfère à un même programme. Mais à l'intérieur de cette référence, il peut y avoir des positions extrêmement variées, opposées entre elles, et qui sont en partie complètement hétérogènes. Alors, ce que je dirais, c'est qu'en effet, au moins d'un Anaximandre jusqu'à la fin de la philosophie présocratique, disons Socrate, il y a quelque chose comme la prégnance d'un paradigme cosmologique. C'est-à-dire, c'est par rapport à cette histoire de l'univers conçue comme un genre d'enquête particulier que différents types de positions sont prises. mais l'importance de la cosmologie elle-même peut être fortement relativisée, comme elle l'est certainement chez Parménide, et elle peut être aussi carrément, au moins selon certaines interprétations d'Héraclite, niée. C'est-à-dire que, évidemment, l'avantage de la notion de paradigme cosmologique sur l'idée d'une physique présocratique, c'est que le paradigme cosmologique autorise sa négation, autorise l'émergence de formes de pensée qui précisément prennent position contre le paradigme en question. Nous verrons que c'est sans doute le cas d'Héraclite en particulier. Il est tout à fait clair, encore un mot sur Empédocle, que Empédocle représente un autre cas extrêmement intéressant où les limites de la description de la philosophie présocratique en termes de physique, vous voyez, c'est autour de ça que tourne tout mon discours, les limites de la description de la philosophie présocratique en termes de physique apparaissent de manière évidente. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que, on aura l'occasion d'y revenir, je vous expliquerai, c'est un peu compliqué, mais on sait qu'il y a chez Empédocle deux récits. Il y a un récit de l'histoire du monde et il y a un récit, disons, de l'histoire d'une entité que Empédocle appelle le démon. J'anticipe un petit peu en vous disant que le démon, on ne sait pas quoi, Empédocléen, c'est une transcription du grec daimones, que daimones, c'est un des noms possibles des dieux. C'est-à-dire, on dit, il y a deux façons de dire dieu en grec. Dieu, c'est soit un théos, si on le met au singulier, soit un daimon. Alors, à partir de Platon, daimon a un sens relativement particulier. À partir de Platon, dans le banquet en particulier, daimon a un sens un peu particulier parce que vous avez daimon dans le banquet est utilisé par Platon pour qualifier Eros en tant qu'intermédiaire entre les hommes et les dieux. Le démon, à ce moment-là, est un être semi-divin, c'est-à-dire c'est un être qui fait le lien, qui sert de lien entre le monde des hommes et le monde des dieux. Mais chez Platon, c'est une spécialisation du terme démon. Chez les Grecs, avant Platon, le daimon s'oppose au théos comme une divinité anonyme, c'est une force divine anonyme, par opposition à une divinité que l'on peut nommer, à une divinité qui a contour et figure. Donc c'est plutôt du côté de la force démonique, si vous voulez. Ça, on a encore cette notion de démon dans l'idée de force démonique, par opposition au théos. Le théos, il est visible, il a des contours, il a un nom, c'est Athéna, c'est Dieu, etc. Le daimon, c'est plus obscur, c'est plus mystérieux, c'est plus viscéral. Voilà. Et donc, il y a cette opposition entre les démons et les théoi, et Empédocle, pour revenir à lui, raconte à un récit totalisant de l'histoire du cosmos qui coexiste avec un récit du sort des daimones, des divinités, d'un certain type de divinité. Et il est tout à fait clair, ça on l'étudiera un tout petit peu en détail, la relation entre les deux récits est une relation qui a quelque chose à voir avec la différence entre physique d'un côté et explication physique d'un côté et théorie de l'action et théorie éthique de l'autre, théorie du comportement de l'autre. C'est-à-dire que Empédocle se pose évidemment la question de la relation entre l'histoire du monde et l'histoire humaine, pour le dire de manière un peu simplifiante. Et ça, c'est encore un cas, peut-être le plus net, de ces trois cas, et ça commence à faire beaucoup, vous voyez, parce qu'il y a Parménide, il y a Héraclite, il y a Empédocle, qui tous d'une manière ou d'une autre ont quelque chose de spécifique qui, comment dire, rend impossible de les homogénéiser sous la catégorie de physique isocratique. Il y a de la physique, mais il n'y a pas que de la physique. Il y a la physique en relation avec autre chose, avec l'ontologie d'un côté, avec quelque chose comme une histoire de l'homme et du comportement humain, et peut-être en relation avec la négation de toute cosmologie dans Héraclite. De sorte que la physique pure, telle qu'elle peut... Alors par exemple, le représentant d'une physique vraiment pure, c'est sans doute Anaxagore, c'est sans doute le site. Les seuls vraiment représentants, vous voyez, d'un modèle cosmologique qui se confond avec la pratique cosmologique où le paradigme s'épuise dans une explication de la nature, on peut le trouver chez Anaxagore et chez le site, de manière assez différente chez l'un et chez l'autre, mais on peut le trouver chez l'un et chez l'autre, de sorte que, paradoxalement, ils font figure d'exception. Vous voyez, alors qu'on était parti de l'idée que la physique présocratique est essentiellement physique, on aboutit maintenant à l'idée presque inverse selon laquelle la physique pure chez les présocratiques est précisément l'exception et une forme de réaction à des visées qui sont plus complexes, disons. Et alors, vous verrez que c'est très facile à montrer sur Anaximandre aussi, c'est-à-dire qu'en dépit du fait que Anaximandre est certainement à l'origine de la cosmologie grecque, comprise comme programme d'explication totalisante de l'ensemble du monde, etc., ça c'est vrai, c'est pas beaucoup de choses avec Anaximandre, mais on a un fragment d'Anaximandre, et ce fragment d'Anaximandre nous permet à coup sûr de dire que le projet est irréductible à un projet, disons, de type physique. Ça, on l'étudiera d'assez près. Voilà. Est-ce que... Oui.
Juste un détail. On a opposé Socrate et les présocratiques comme pratiques et purement spéculatif.
Oui.
Mais selon l'ancienne médecine, les physiciens se voulaient pratiques. Est-ce qu'ils se voulaient pratiques?
Non.
Lui se dit, j'ai pas besoin d'eux pour soigner. Est-ce que eux avaient vu quoi que ce soit?
Non. Ça vient, oui et non. C'est complexe. C'est-à-dire que dans l'histoire de l'ancienne, dans le chapitre de l'ancienne médecine, c'est un médecin qui parle. Et donc le médecin, il dit, moi, mon savoir, ça consiste à savoir soigner les malades. Pour soigner les malades, on n'a pas besoin du type de savoir qui est représenté par, disons, la spéculation cosmologique. Ça, c'est bon pour les philosophes. Vous voyez, l'histoire est vieille. Ça, c'est bon pour les philosophes. Ils s'occupent de la totalité et ça n'a aucun intérêt pour pas pour une question d'efficacité. Bon. Ça ne veut pas dire que certains des physiciens présocratiques, au sens qu'on en totalisant, n'avaient pas aussi des visées pratiques. Pas exclusivement, ça complexifie un tout petit peu le tableau que je vous ai donné. Et par exemple, Empédocle est très connu pour avoir promis non seulement de soigner les maux, comme un médecin peut le faire, mais même de ressusciter les morts. Il y a un fragment très célèbre dans lequel il dit « Tu sauras ressusciter, redonner le souffle à quelqu'un qui est dans l'Hadès ». C'est un fragment d'interprétation très difficile, très intéressant. Et donc, il y a une visée pratique chez Empédocle. Ce n'est pas le cas chez Parménide, ce n'est pas le cas chez Héraclite, ce n'est pas le cas ailleurs, ce n'est pas généralisable. Alors, au fond, ce contre quoi je veux vous mettre en garde, c'est ça le sens de ce discours, c'est le danger de l'homogénéisation, vous voyez, qui est lié en partie à la détermination globale des présocratiques comme présocratiques. Le fait qu'ils soient présocratiques leur confère une unité qui est en grande partie fictive, qui est en grande partie l'effet d'une construction rétroactive par négation de certains traits qui sont ceux de Socrate. Et alors, vraiment, ce qui est intéressant, ensuite, c'est de voir comment la diversité s'exprime à l'intérieur de quelque chose qu'on peut reconnaître comme étant un paradigme cosmologique néanmoins. Mais ce qui est intéressant, c'est naturellement la diversité des options qui s'ouvrent. Et alors, on va travailler un peu là-dessus. Voilà. Alors, dans le temps qui me reste, je voudrais revenir à cette détermination, à cette notion de totalité. Et puis, à partir de la prochaine fois, on va rentrer un peu dans le texte. Alors, je vous parlerai très rapidement des Milésiens. Je ne vais pas vous, je vais pas m'attarder là-dessus. On y reviendra peut-être plus tard, parce que, bien que ça soit à l'origine, c'est d'une certaine manière plus compliqué. Je ne vais pas commencer par là, et surtout, je ne vais pas faire de choses chronologiques. Je dirais que, enfin, trois mots milésiens, et ensuite je voudrais prendre immédiatement Parménide, qui est un gros morceau et qui est compliqué, etc. Donc ce que j'aimerais que vous fassiez, c'est que vous lisiez le plus possible les fragments de Parménide. Il n'y en a pas 36 000, hein, je veux dire, ça, ça va vite, il y a 100 vers en tout, 150 vers en tout, mais ouvrez l'un des livres que je vous ai recommandé ou une des traductions et lisez un peu les fragments de Parménide pour qu'on puisse... distribuerai aussi sans doute des traductions, mais on va entrer un peu dans Parménide et je vais vous expliquer la problématique qui est absolument capitale. Voilà, donc dans le temps qui me reste là, je voudrais revenir un tout petit peu sur la notion de totalité sur laquelle j'ai, dont j'ai un tout petit peu parlé en parlant du. Alors, la notion de totalité est importante parce que si on cherche à identifier ce qu'il y a de philosophique dans une démarche, certainement la notion de totalité est une des plus importantes. Simplement, c'est une notion qui est elle-même polysémique. C'est-à-dire que il y a beaucoup de façons, comme dirait Aristote, totalité se prend en plusieurs sens. C'est une notion polysémique. On en a vu au moins un sens déjà, quand je vous ai parlé. Du philosophe comme polymathe, le philosophe voyageur, celui qui s'intéresse à tout. S'intéresser à tout, c'est une façon, en effet, d'être philosophe. Simplement, cette première définition que vous avez, je vous le rappelle, dans ce texte d'Hérodote à propos de Solon, n'est-ce pas ? Cette notion de totalité est une notion de totalité, comment dire, discrète, au sens de séparée, sans lien, sans syntaxe. C'est une totalité émiettée. Totalité émiettée et émiettée. Et en tant que totalité émiettée, elle va devenir l'objet de l'attaque précisément de ceux qui réclament pour la philosophie quelque chose comme la compréhension du tout, mais dans sa version, pour ainsi dire, syntaxique, non pas discrète. Et donc, c'est comme ça qu'on peut lire les fragments d'Héraclite qui disent « Savoir beaucoup n'apprend pas l'intelligence. » Fragment qu'on a déjà vu l'autre fois. Il qu'il est très vraisemblable, ou du moins c'est une hypothèse qu'on peut faire, une hypothèse raisonnable qu'on peut faire, que le caractère proto-philosophique ou philosophique de l'enquête sur la nature est lié à la volonté de totalité qui s'y exprime. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important et de très très difficile, à la fois d'être très simple, à la fois d'être très simple, très important et finalement de très difficile. Parce qu'au fond, c'est la question de savoir, disons, est-ce qu'on peut faire un partage sensé, intelligible, s'agissant des débuts de la philosophie grecque, entre une entreprise de connaissance du monde, simplement, la visée scientifique, et une visée de type philosophique qui emprunte, pour ainsi dire, la voie de la science ou des sciences. C'est pas si simple de répondre à cette question, en partie à cause de notre documentation, mais aussi en raison de difficultés conceptuelles. Par exemple, il y a des gens qui pensent que on n'a pas de raison de parler de philosophie quand on parle des Milésiens, quand on parle de Thalès, d'Anaximandre et d'Anaximène. Qu'on peut dire que Thalès, Anaximandre, Anaximène découvrent quelque chose, découvrent dans le sens. On peut dire, donnent leur pleine vigueur à une entreprise de type scientifique. Que ce sont des hommes de science. C'est la position d'un des meilleurs connaisseurs de la période archaïque, et d'un très bon interprète de la pensée grecque qui s'appelle Jaap Mansfeld. Dans un article dont je vous donnerai les références la prochaine fois si vous voulez, Jaap Mansfeld pense qu'il n'y a aucune raison de dire que Thalès, Anaximandre ou Anaximène pratiquent la philosophie, que ça, c'est de la construction aristotélicienne. Alors, on aura l'occasion de voir ce que signifie construction aristotélicienne, plus précisément. Mais l'idée, c'est qu'il faut distinguer assez radicalement la science de la philosophie, qu'on ne peut, et donc selon Mansfeld, on ne peut vraiment parler de philosophie qu'à partir du moment où précisément, l'objet principal de l'attention n'est plus l'explication du monde, du système du monde, mais où il intervient un nouveau type d'objet qui est donné en gros par Parménide, c'est-à-dire la réflexion sur l'être. C'est seulement à partir du moment où la réflexion sur l'être devient thématique, où on parle, où on peut parler d'ontologie, que ça a un sens de parler de manière distinctive de philosophie. Et alors, il est absolument évident, ça, on le verra, que Parménide introduit dans la réflexion en Grèce une révolution considérable, qui est analogue, si vous voulez, en importance à celle de Kant, ça c'est sûr. Et que d'une certaine manière, à partir de Parménide, on ne peut plus penser comme on a pensé avant. Mais la question se pose de savoir si cela exclut ou non les penseurs de ce type, et en particulier, disons, puisque Thalès, je vous ai dit, il a un statut quand même très spécial, hein, en particulier à l'accident vers Anaximène, est-ce que ça les exclut du statut possible de philosophe? Et il faut se demander en quel sens cela a un sens de dire bon, que Anaximène et Anaximène peuvent revendiquer le statut de philosophe. Alors, là-dessus, je pense que c'est extrêmement lié, un des éléments de réponse possible passe précisément par la notion de totalité. C'est-à-dire que pourquoi de totalité, disons, non pas encore une fois de totalité discrète, mais de totalité, ce que j'appelle syntaxique ou organisée, ou organique, si vous voulez. Pourquoi ? Parce qu'il s'agit d'expliquer le monde, pour ainsi dire, comme système. L'idée de totalité allant de pair avec celle de systématicité. Donc ce qui est important dans l'entreprise, c'est la totalité dans la mesure où elle permet de subsumer l'ensemble des phénomènes sous un principe ou sous des principes uniques ou réduits. C'est cette entreprise de mise en relation d'une multiplicité de phénomènes avec des principes identifiables et du nombre qui peut être considéré comme une entreprise à proprement parler philosophique, qui n'est pas nécessairement liée à une démarche d'entreprise de nature scientifique. C'est-à-dire, la science, dans ce cas-là, s'occupe essentiellement de domaines sectoriels de la réalité. Par exemple, un médecin s'occupe du corps humain et de ses maladies. Un météorologue ou un astronome s'occupe du ciel et des phénomènes célestes. Alors, bien que le ciel et les phénomènes célestes puissent être considérés, et a été considéré par Aristote comme l'origine de la philosophie, c'est naturellement pas parce qu'on s'intéresse à un phénomène céleste, c'est même pas parce qu'on est étonné qu'on est philosophe. Sinon, où irait-on ? Puisque les objets d'étonnement sont quand même extrêmement nombreux. Donc naturellement, il faut être étonné, mais il faut en plus adopter une certaine attitude vis-à-vis de cet étonnement, c'est-à-dire il faut traiter cet étonnement d'une certaine manière. Aristote, première réponse à cet étonnement chez Aristote, c'est la recherche de la cause. Évidemment, la recherche de la cause est une manière de réagir à l'étonnement primitif, mais on peut considérer que la volonté de subsumer, encore une fois, ce que l'on conçoit comme étant la totalité des phénomènes, donc une totalité que l'on se donne, pour ainsi dire, comme relevant d'un certain nombre de principes particuliers, devant être expliqué par ces principes particuliers, peut être considéré comme distinctif d'une entreprise philosophique. Et la question qui va se poser est évidemment de savoir est-ce que Anaximandre d'un côté, Anaximène de l'autre, répondent à cette définition, c'est-à-dire est-ce qu'on a de bonnes raisons de penser que Anaximandre d'un côté et Anaximène de l'autre élaborent un système du monde qui répond à ces deux critères de totalisation d'un côté et de cohérence systématique de l'autre. Le présupposé étant, j'y reviendrai, mais le présupposé étant que ça n'est pas le cas avec Thalès. Et encore une fois, que dans le cas de Thalès, il s'agit vraiment d'une rétrojection aristotélicienne sur le personnage de Thalès, que l'on peut comprendre, mais qui n'est pas vraiment justifié. Et du coup, la question est de savoir dans quelle mesure c'est justifié pour Anaximandre. Il y a un autre critère qui, à part ce critère de la, disons, de la totalisation et de la subsumption d'un ensemble de phénomènes déterminés sur des principes, qui peut servir de critère pour distinguer une interprétation philosophique, parce que le critère de la totalisation à lui-même ne suffit pas. Il ne suffit pas pour la bonne raison qu'il y a beaucoup de penseurs, où il y a beaucoup plus exactement de production culturelle, qui se caractérise précisément par le fait qu'elle pense la totalité des phénomènes, une certaine totalité, sous la catégorie de la totalité. Et précisément, ce sont des phénomènes culturels qui se définissent par opposition à la philosophie plutôt que comme philosophe. Il suffit de penser, par exemple, au grand mythe fondateur, au grand mythe cosmologique. Le paradigme dans le monde grec étant donné par la théogonie d'Hésiode. La théogonie d'Hésiode se présente précisément comme l'explication de la totalité des phénomènes existants, la totalité de ce qui est, à partir d'un certain nombre de principes relativement réduits, étant donné que les principes chez Hésiode sont au nombre de 3, il y a le chaos, il y a la terre et il y a l'amour. Si vous ouvrez la théogonie d'Hésiode, la théogonie commence par, au début, était le chaos, ensuite vint terre, et puis, dans un troisième temps, l'amour. Et c'est à partir de ces trois principes, et de la descendance de ces trois principes, que monde et des dieux et des hommes s'organise, se déploie. Et donc, si vous voulez, la visée totalisante à elle seule est aussi bien une caractéristique des mythes, disons, de type mythe cosmogonique, enfin, tous les mythes de type cosmogonique, est aussi bien une caractéristique des mythes de type cosmogonique que, disons, des premiers systèmes cosmologiques. Et de fait, on peut penser que le modèle de la totalisation, c'est-à-dire l'idée de la totalisation qui est à l'œuvre dans les premières cosmologies grecques, est entièrement récupéré ou est entièrement hérité à partir de ces totalisations qui sont représentées dans un mythe comme celui d'Hésiode. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, naturellement, la philosophie rompt avec un mode de pensée antérieure, mais cette philosophie rompt avec un mode de pensée antérieure en reprenant l'ambition première qui est précisément l'ambition de l'explication totale. Donc, cela pour dire que le critère de totalité est peut-être important, mais qu'il ne suffit nullement, puisque précisément, le critère de totalité est ce qui rapproche la philosophie de ce dont elle se détache, à savoir le mythe. Du coup, il faut faire intervenir un autre type de critère, se rajoutant au critère de la totalisation, pour essayer de saisir un caractère vraiment distinctif de l'entreprise philosophique. Évidemment, là, les critères peuvent être de plusieurs types. Quand on énumère deux, simplement, il y a le critère, sans doute le plus évident, et c'est un critère auquel Aristote tient beaucoup dans le passage que je pensais lire, précisément sur Thalès, dans Métaphysique Alpha 3. Parce que dans Métaphysique Alpha 3, parlant de Thalès, Aristote fait une distinction très nette entre Thalès, qui est le premier à pratiquer la philosophie naturelle d'un côté, et ceux qu'il appelle les théologiens. Les théologiens, quand Aristote emploie le mot théologien, ça signifie toujours Homère et Hésiode, c'est-à-dire théologiens au sens de ceux qui racontent les généalogies des dieux, les histoires des dieux, ceux qui expliquent le monde à partir des disons, dieux, des histoires de la divinité. Alors, ce premier critère, c'est, disons, en effet, le critère de la force naturelle. C'est-à-dire, ce qui intervient dans l'explication de la totalité des choses n'est plus une figure divine, anthropomorphique, comme sont les dieux grecs, et doué d'un nom mythique, mais ce sont des quelque chose comme des éléments. Des éléments naturels. L'eau, l'air, etc. Donc, il y a quelque chose d'important dans le naturel qui n'est pas le fait que, pas par la notion de naturel, par la notion physique, il y a quelque chose qui est important qui n'est pas le fait qu'il s'agit du cosmos comme domaine d'intérêt particulier, mais qu'il s'agit d'un type d'explication négativement défini comme ne faisant pas recours à, disons, aux figures anthropomorphiques du mythe traditionnel. Ça, c'est un premier critère de démarcation dont il faudra se demander ce qu'il est, ce qu'il vaut, parce que vous allez voir que dans la philosophie grecque, les dieux sont très très vite réintroduits. Ils disparaissent peut-être chez Anaximène, et encore, on verra. Mais s'ils disparaissent, c'est vraiment fugitivement, ils sont très très vite réintroduits. Alors, c'est un critère, en plus du critère de totalisation, ce qu'on peut appeler le critère de sécularisation, de naturalisation, c'est-à-dire les causes qui interviennent dans l'explication de cette totalité sont des causes naturelles. Et il y a un troisième niveau, et puis je m'interromps là-dessus, il y a un troisième élément qui est sans doute le plus difficile à saisir, plus impossible à saisir en tous les cas pour nous, pour le début de la philosophie grecque, parce que nous avons perdu les textes originaux, et qui serait celui du mode d'argumentation. Parce que le mythe travaille, le mythe n'est pas rationnel, vraiment. Le mythe travaille avec une certaine rationalité, avec un certain type de rationalité, d'ailleurs, qui est intéressant de se demander quel est le type de rationalité avec lequel opère le mythe, mais c'est un mode de rationalité que l'on peut appeler narrative. C'est-à-dire, c'est un mode de rationalité qui ne connaît pas, disons, la logique de l'enchaînement des propositions. C'est un autre type de rationalité que nous avons souvent de la peine à décrire, parce que précisément, nous vivons dans un monde qui est informé par une logique argumentative beaucoup plus que par une logique narrative. Cette logique narrative existe néanmoins. Et naturellement, il serait fantastique de savoir de quoi avait l'air. Alors Thalès, on ne sait pas s'il a écrit ou non, ça c'est un autre problème encore. Très vraisemblablement, il n'a pas écrit. L'Anaximandre et l'Anaximène ont écrit, ça on le sait. Simplement, on n'a pas. On a une phrase d'Anaximandre, mais pas assez pour savoir vraiment à quoi ça ressemblait. Il serait absolument fascinant d'avoir un texte d'Anaximandre et d'Anaximène pour voir quel type d'énoncer, ils mettent en œuvre. Quel mode d'expression ils mettent en œuvre. Ils mettent en œuvre, pardon, je suis fatigué. Et on a vu la question de savoir, est-ce qu'ils argumentent? Quelle est la part de l'argumentation chez les philosophes présocratiques? Quelle est la part de la narrativité? Quel type de narrativité? Quelle est la relation de cette narrativité avec la narrativité, disons, de type mythique? Il existe un livre sur Anaxagore, donc sur un autre auteur relativement tardif, que l'on connaît relativement bien ou relativement mieux parce qu'on a plus de fragments. Il existe un livre assez intéressant de quelqu'un qui s'appelle Scofield, qui est le même Scofield qui est celui qui a révisé l'édition que Raven est venu à votre disposition dans la bibliothèque. Je ne sais pas si quelqu'un a essayé de le consulter. Oui, il y est, parce que je n'ai pas vérifié. Si vous ne consultez pas, moi je le reprends. Hein, c'est... Donc, en principe, il est là-bas. Oui ? Non ? Vous ne l'avez pas vu ?
Je l'ai vu.
Ah, c'est
ouais,
bien.
C'est
bah, c'est chez moi. Ah, c'est chez vous.
Ouais.
Mais alors, vous savez que c'est interdit, hein ? Non, non, il faut que ça reste à disposition des gens. Voilà, mais ce qui suppose que les gens le consultent aussi, parce que si en effet, si les gens ne le consultent pas, vous pouvez aussi bien l'avoir chez vous, ça, vous voyez le propre. Bon, alors, Scofield a écrit un livre qui s'appelle An Essay on Anaxagoras. C'est un livre intéressant parce qu'il examine tous les témoignages, et en particulier les témoignages d'Aristote sur Anaxagore, qui sont assez nombreux. Et il montre que Aristote traite Anaxagore en philosophe dans la mesure où il pense qu'il y a une argumentation chez Anaxagore. Aristote s'intéresse aux raisons, aux arguments d'Anaxagore. Et l'idée de Scofield, c'est qu'au fond, rechercher des arguments du type qui pouvait satisfaire Aristote chez Anaxagore, c'est entreprendre une tâche impossible parce que, selon lui, Anaxagore est un philosophe dogmatique, au sens anglais du terme, c'est un philosophe qui ne cherche pas à établir la vérité des thèses qu'il avance. Alors on peut se demander, qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Comment il procède ? Voilà. Donc, j'aurais mis en place ces trois notions, j'aurais introduit ces trois notions, donc il y avait totalité, sécularisation, argumentation, comme disons trois paramètres qu'il faut prendre en compte dans la lecture des pensées, et tout ça sur le fond de la question, disons, du statut, du rapport à la nature chez les uns et chez les autres. Voilà. Et ça va nous servir, si vous voulez, de background pour essayer de déchiffrer certaines figures particulières. Et je commencerai la semaine prochaine, donc je vais vous donner des livres, il y a quelques mots des Milésiens, et puis on en aura parmi nous. Oui.
Est-ce que vous pensez que vous avez autour de la question de l'abstraction
de
l'abstraction.
Oui.
Ce qui est pour c'est dire que nous connaissons tout ça, puisque ce n'est pas censé avoir inventé la conceptualisation, c'est à partir de quel moment, de quel niveau, de quel point pour l'abstraction, on peut parler de concept.
Oui, certainement. Certainement. Non, il y a plusieurs formulations possibles. Je vous ai donné ces pouvoirs-là, ça me semble. Les autres me semblent pouvoir se ramener à ça. Par exemple, la latéralisation va de pair avec la conceptualisation. Mais enfin, vous avez raison. La totalité syntaxique aussi.